Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le jour de ses 30 ans, un homme un peu snob qui n'aime pas les anniversaires et qui a les moyens décide de fuir cette journée qu'il veut oublier et saute dans un avion pour Las Vegas. Il espère ainsi que ses 30 ans passeront inaperçus. C'est sans compter le décalage horaire combiné avec le temps de vol qui font durer la journée plus de 36 heures. C'est hélas pour lui le jour le plus long de sa vie. Le 22 juin 1944, lors de son inspection du mur de l'Atlantique, le feld-maréchal Erwin Rommel dit à son aide de camp, je cite, « Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps en empruntant l'itinéraire le plus court et qu'ils vous préviendront, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable en choisissant l'itinéraire le plus long. » Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce sera le jour le plus long. Il y a une version d'ailleurs moins romancée dans laquelle il aurait dit simplement « Croyez-moi, langue, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives, le sort de l'Allemagne en dépendra, pour les Alliés comme pour nous, ce sera le jour le plus long ». Entre le 30 juillet et le 2 septembre, enfin, chaque année, vous le savez, se négocient les transferts de football. Les clubs professionnels ne sont autorisés à transférer les joueurs dans un autre club que pendant cette période qui définit ce que l'on appelle le mercato. Le dernier jour du mercato voit ainsi le monde du football saisi d'une espèce de folie collective. Jusqu'à minuit pétante, où le marché s'arrête officiellement, les négociations se poursuivent, les journalistes live tweet, les informations pleuvent, les rumeurs enflent et retombent. Les surprises ne manquent pas et des dizaines de millions d'euros passent d'une main à l'autre. Dans le jargon des footeux, on appelle cela le jour le plus long. Vous l'aurez compris, tout de suite dans les pieds sur terre, ce sont deux histoires que j'ai intitulées le jour le plus long et qui sont signées Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Clara, j'ai 19 ans et je suis une étudiante en hypocagne. Et ça faisait 2 ans que j'avais envie de partir à l'étranger, donc aux États-Unis, pour faire un job d'étudiante en tant que jeune fille au pair, afin de progresser en anglais parce que j'avais envie de me perfectionner. Et donc je logeais à cette époque dans un foyer étudiant international où j'ai rencontré une jeune fille américaine qui faisait ses études à Paris et elle m'a proposé de rentrer en contact avec sa cousine qui avait un enfant d'environ 8-9 ans. Et donc je suis rentrée en contact par mail avec cette famille américaine qui pouvait m'accueillir. Et cette famille avait l'air vraiment très chaleureuse. Et je me suis dit, c'est bingo parce que je vais avoir un travail que je connais. Je garde souvent des enfants. Je vais pouvoir parler anglais et m'améliorer. Et en plus, je vais pouvoir découvrir vraiment la culture, vivre à la manière américaine dans une famille et partager les passe-temps des Américains. On a vu les dates, j'ai pris mes billets d'avion avec eux et donc je devais les rejoindre à New York donc en ce mois de juillet. J'étais contente, c'était la première fois que je traversais l'Atlantique en avion. Et j'avais donc l'excitation qui montait plus on rapprochait du but fatidique. Et j'avais hâte de rencontrer ma famille. Donc, on arrive enfin à l'aéroport de New York. Je descends et là, donc, on doit être conduit devant les postes de police de l'immigration avec des officiers qui nous posent des questions sur la raison de notre voyage, pour combien de temps, etc. Et donc, c'est assez impressionnant parce que donc déjà, il y a des longues files, ils nous font patienter assez longtemps. Les officiers sont pas très commodes, ils ont un uniforme très impressionnant. Donc, ça fait vraiment comme dans les films. Et comme je m'étais pas assez renseignée, j'ai dit simplement que je venais m'occuper d'un petit garçon sans être rémunérée et que la famille m'accueillait en retour. Et j'ai vu que ça ne passait pas parce qu'il m'a fait répéter plusieurs fois cette réponse. Et je suis assez timide et du coup, je rougis très facilement. Et comme je rougissais, il a dû se dire « Ah, elle a quelque chose à cacher » ou je sais pas. Donc, je suis conduite à la police de l'immigration. Ils me prennent mon passeport et mon portable assez rapidement. Donc, je me suis dit « Il y a peut-être un petit problème. » Et là, je commence à être un peu inquiète. Et là, il y a un officier donc, qui vient, qui me dit « Suivez-moi, mademoiselle, on va dans mon bureau. » Et donc là, ils me font asseoir dans un bureau assez lugubre, très blanc, très avec des néons très forts. Il y avait une caméra qui me filmait aussi derrière, comme un interrogatoire de police. Et c'est assez déroutant, en fait, comme situation. Et donc, c'est là que va commencer, justement, l'interrogatoire. Donc, il me pose des questions toutes simples. Comment je m'appelle, ma civilité, mes parents, leur profession, où j'habite, comment je connais la famille, quelles ont été la nature de nos échanges, si je vais être payée, est-ce que ça a été en accord avec la famille que je n'allais pas être payée. Et donc, ils ouvrent ma valise, donc ce qui est déjà un peu gênant et humiliant, enfin avec toutes les affaires qu'on peut imaginer avoir pour un mois. Et donc, ils fouillent dans ma valise, ils me demandent si j'ai pas de choses illégales, etc. Je réponds évidemment non. J'étais assez calme, je me suis dit, bon, c'est encore des formalités. Et j'avais plus mon portable ni mon passeport, donc j'avais aucun contact avec la famille qui devait m'accueillir. J'ai pu les prévenir seulement 5 heures après mon arrivée. Et c'est à ma demande, j'ai dû demander. Et donc, en fait, ils ont appelé la famille pour vérifier mes propos, voir si ce que je disais était vrai. Donc à la fin de mon interrogatoire, ils me disent on va vous fouiller une nouvelle fois. Donc j'avais déjà été fouillée, 5 fois. Enfin, c'est répétitif, on me fouille, on m'a fouillé 10 fois mes affaires, on a touché 10 fois mon corps, vraiment, c'est humiliant parce que c'est à répétition, on a vraiment un moment, on est dépossédé de soi-même en fait, on n'est plus qu'un corps ou un esprit qui est en train de mentir, qui est en train de cacher quelque chose, et enfin, on a vraiment l'impression qu'on essaye de nous faire avouer quelque chose même si on n'a rien fait. Et c'est très très bizarre comme sensation. Donc il me fouille, et là c'est une femme qui me fouille, qui est une femme vraiment rustre et brutale. Donc elle me disait dans quelle position je devais me mettre, etc. Et elle m'a dit ensuite, je vais toucher vos parties intimes, ne protestez pas, mais vraiment d'une manière très brusque, alors que j'étais vraiment calme, j'étais coopérante, je manifestais aucun signe d'agressivité. Donc elle s'est attardée vraiment sur ma poitrine, sur l'entrejambe, et voilà. Ensuite, on fouille ma veste. Donc ma veste, on me demande s'il y a un animal dedans, et donc auquel je réponds un peu avec cynisme que j'ai un chien dans la poche droite, parce que je trouve ça mais juste absurde de poser cette question. Et clairement, je trouvais leur comportement absurde d'être comme ça dans leur costume qui est très rutilant, qui montre bien, regardez, nous on représente le pouvoir, vous n'êtes rien. Et je les trouvais ridicules et... Vraiment, je faisais du sarcasme, de l'ironie, je me moquais un peu d'eux ouvertement pour leur montrer que c'était ridicule. Parce que moi, c'était mon seul arme finalement, je vais pas non plus leur faire le plaisir de m'écrouler par terre. Et c'est pas parce qu'une procédure est légale qu'elle est forcément juste, et je voulais bien leur prouver ça. Voilà. Et l'interrogatoire en tout durera 9 heures. Ça faisait 9 heures que j'étais dans ce bureau, et là, il y a un officier donc, qui m'a annoncé à l'issue de l'interrogatoire que j'allais être rapatriée en France le lendemain, et qu'il me restait toute la nuit à passer parce que le vol du lendemain était prévu à 13 heures. Donc je suis allée pleurer dans les toilettes, je suis revenue, et puis je reniflais sans arrêt, puis il y avait les officiers qui passaient dans le bureau et qui n'avaient pas un regard. Donc c'est vraiment, on avait l'impression d'être en face de machines qui n'éprouvaient pas de sentiments, et qui même face à une jeune fille de 19 ans qui n'a rien fait de mal, vraiment, et qui est en train de s'effondrer parce que voilà, c'est assez dur, et ils s'en fichent, quoi. J'étais seule dans un état vraiment de solitude extrême, surtout dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des règles qu'on ne connaît pas forcément. Et donc j'avais quand même mon livre « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître, qui est un tellement bon livre que dans toute situation, on peut rentrer dedans. Donc je le lisais et j'arrivais à m'échapper un peu de la réalité grâce à ça. À un moment, on me dit que je dois laisser toutes mes affaires, donc ma montre, mon livre, et je me suis un peu battue pour garder mon livre. J'ai demandé « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mon livre ? Pourquoi je peux pas le garder ?» etc. Et ils m'ont dit « Non, non, vous avez pas le droit, vous avez pas le droit. » Donc j'ai dû laisser vraiment tout ce qui me constituait. J'avais plus rien, on me retirait tout ça. Donc il était 23h30, donc j'avais toute la nuit et la matinée à passer encore aux États-Unis, et je savais pas encore où j'allais dormir. On m'avait dit que j'allais passer la nuit dans un endroit, donc ils m'ont juste dit « a place ». Et donc je pensais que j'allais être conduite dans un hôtel un peu miteux près de l'aéroport, mais je n'imaginais pas une seule seconde ce qui allait se passer par la suite. Donc dans le poste de police, on était trois en tout. Donc il y avait un monsieur de, je pense qu'il était indien et il était dans la quarantaine d'années, et une jeune coréenne. Et donc je vois qu'il commence à passer les menottes à l'homme indien. Et je vois qu'il commence à sortir les menottes pour la coréenne et moi. Donc quand ils m'ont mis les menottes, je les ai regardées en rigolant. Et je laisse échapper, mais je suis pas une criminelle, mais vraiment, enfin, sur un ton juste étonné, enfin, j'étais stupéfaite qu'on puisse me mettre les menottes. Et donc ils disent, c'est pour une question de sécurité pour le voyage, etc. Donc les mains dans le dos, les menottes, qui sont quand même très serrées, c'est très inconfortable. Et on traverse tout l'aéroport, on va dans une fourgonnette blindée. Et à ce moment-là, je ne sais toujours pas où on m'emmène. J'ai encore dans l'idée qu'on va aller dans un hôtel. C'est un peu naïf, mais je me suis dit, peut-être qu'il y aura un officier à ma porte, je sais pas, bref. Et on roule pendant 40 minutes. 40 minutes en pleine nuit, avec un manque de sommeil, un manque de nourriture, une fatigue, c'est très très long. Et là, on arrive devant un espèce de grand bâtiment en béton. On nous fait rentrer dans une espèce de pièce nue, en béton blanc. Et donc là, on nous laisse, je vois les officiers de la police de l'immigration qui partent et on reste et on va passer la nuit donc dans ce centre de détention et de correction. Donc on va m'emmener dans une pièce où je vais devoir me changer intégralement, donc des sous-vêtements aux vêtements, avec les vêtements orange qui sont pour les détenus provisoires. On me fait faire des tests de grossesse, on me fait une radio des poumons, on me fait un questionnaire avec les différentes maladies que j'ai pu avoir, et tout ça en anglais évidemment, si je suis à tendance suicidaire, si j'ai envie de me suicider maintenant, plein de questions comme ça, auxquelles je réponds non. Donc je quitte ce médecin et je rejoins ma cellule. Donc c'était une très grande pièce blanche avec des néons qui agressaient réellement les yeux, avec une télé donc en espagnol qui était un volume très très fort et qui a marché toute la nuit. Donc pour s'endormir c'est quand même pas l'idéal. Et on est sur des bancs en béton avec juste des draps et une couverture un peu plus épaisse pour se réchauffer. Toute la nuit, je ne serai jamais plus d'une heure dans ma cellule, donc je ne pourrai jamais dormir plus d'une heure parce que, en fait, des gardes viennent vous chercher soit pour vous apporter de la nourriture, soit pour signer un certain nombre de formulaires. Et je pense que c'est fait exprès pour qu'on dorme le moins possible et qu'on soit le plus sur les nerfs. Et que si on soit coupable, et ben on avoue notre faute, par exemple. On va m'appeler plusieurs fois, et donc une fois on m'appelle donc, au bureau, on me prend en photo. Donc avec une webcam dans ma tenue orange de tolarde, j'ose le dire. On fait une carte de prisonnière avec un matricule. Et ensuite, donc, on va me faire signer un certain nombre de papiers. Donc, comme quoi, si je suis amenée à rester plus longtemps dans cette prison, je vais devoir payer et travailler donc, dans cette prison, faire des travaux d'intérêt généraux, etc. Donc là, c'est étonnant. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on me fait signer ce genre de papiers alors qu'on m'a dit que je reprenais un vol le lendemain? Et je me dis, mais peut-être que je vais rester plus longtemps. Alors, je m'accrochais à cette idée que j'allais reprendre mon avion le lendemain à 13h, mais il y avait quand même un doute qui s'installe. J'avais juste une envie vraiment, vraiment de plus en plus pressante d'être dans cet avion. Vers 6h du matin, on est venu me chercher donc, au centre de détention et de correction. Et donc on m'a ramené à l'aéroport. De 7h du matin à midi, j'ai dû attendre, patienter. Et donc là, un officier est venu pour me chercher. et l'officier m'a accompagné jusqu'à mon siège, donc dans l'avion. Il a confié mon passeport au steward. Donc j'ai, même dans l'avion, j'avais pas le droit d'avoir mon passeport. Et j'étais en plus sur un petit sas de 4 sièges, donc 2 devant et 2 derrière. Et j'étais seule en fait. Donc j'étais toujours pas revenue à la normale. Donc on me redonne mon passeport après 4 heures de vol. Ils ont tellement peur que je revienne aux États-Unis que vraiment ils évitent tous les risques, comme si j'allais casser l'hublot pour essayer de retourner. Enfin, c'est juste, voilà, c'est absurde vraiment. Donc voilà, donc le voyage se passe ainsi. J'atterris à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris et je pensais mon cauchemar enfin terminé, sauf que là, la voix du steward appelle Mrs. Clara, please, Mrs. Clara. Et donc je passe devant tous les passagers, excusez-moi, c'est moi, je suis appelée, etc. Et là, devant, à la porte de l'avion, je vois des policiers français. Et je me dis, non mais c'est toujours pas fini, qu'est-ce qui va se passer ? Et je me dis, je suis en train de passer la journée la plus longue de ma vie. Et en plus, un membre de la compagnie aérienne avec lequel j'étais est venu me voir et m'a dit, oui mademoiselle, tout ce qui vous est arrivé est entièrement de votre faute, et voilà, vous nous avez causé beaucoup de problèmes. Bon, je vous laisse avec mes collègues, etc. Donc j'ai été au poste de police de l'immigration où en fait ils devaient signer un papier pour bien prouver que j'étais arrivée en France. Et les policiers français ont été vraiment très gentils avec moi. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé et tout. Ils étaient vraiment choqués. Ils m'ont dit non mais c'est pas possible. Nous en France jamais on traiterait un citoyen américain de cette manière. Et ils m'ont emmené jusqu'à la frontière française. Et ils m'ont dit bienvenue en France mademoiselle. Et j'ai fait enfin. Et vraiment, je me suis sentie, j'étais fière d'être française à ce moment-là, j'ai eu un élan patriotique. J'étais heureuse, mais profondément heureuse d'être sur le sol français avec des valeurs qui me correspondaient. Et ensuite, j'ai retrouvé mon père à l'aéroport. Ça m'a bien cassé mon rêve américain, ça m'a un peu ouvert les yeux, parce que cette image, cette utopie de l'Amérique, pays de la liberté où tout est possible, clairement tout n'est pas possible et c'est pas si rose que ça et je trouve ça important un peu de briser cette image de superpuissance, d'hyperpuissance intouchable, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Pierre Borghi et j'ai été capturé à Kaboul en novembre 2012. Et j'ai pas revu la lumière du soleil jusque début avril 2013. Et ça a été la nuit la plus longue.
Resté captif au fond d'un trou pendant 131 nuits.
Oui, c'était une cache sous la terre qui était étroite, petite. C'est vrai que j'y étais en position de chien de fusil. Je pouvais pas m'allonger, je pouvais pas m'asseoir, encore moins me lever. J'avais la place pour me tenir, oui, recroquevillé avec une couverture et un peu de paille sur le sol, quoi. Donc je suis comprimé dans un endroit qui est obscur, qui est organique, c'est de la terre meuble. C'est silencieux, avec parfois des bruits un peu étouffés. On ne me parlait pas, j'étais nourri, il y avait une assiette qui descendait par une trappe une fois par jour, une paire de cigarettes avec du thé. Ce qui m'a permis de me raccrocher au comptage des jours, c'est un bruit. Là, je pense que c'est un de mes gardiens qui coupait du bois. Donc j'entendais ce bruit de hache sur le bois. Puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté, et ça s'est arrêté pour des heures. Donc j'étais dans le noir et dans le silence pendant des heures, avec des périodes de sommeil, avec des périodes d'éveil. Et puis au bout d'un moment, ça a recommencé. Donc je me disais, une journée de passer. Et puis ça a duré quand même 4 mois, un peu plus de 4 mois, pendant la majeure partie de ce qui a été un hiver, en fait. C'est vrai que je pense que dehors, c'était essentiellement le silence. Il y a beaucoup, fait très froid en Afghanistan, il y a de la neige. Et quand il y a de la neige, les bruits sont étouffés. Donc j'avais vraiment que ce repère du bruit de la hache. Les gardiens, les preneurs d'otages, avaient fait l'effort de ne pas connaître mon nom, pour ne pas m'humaniser, pour ne pas avoir d'attachement, pour pouvoir éventuellement m'abattre. Donc au bout d'un moment, Il y a eu une de ces séances classiques de vidéos de preuves de vie. Donc il y en avait un qui était là et il m'a dit, bon bah là, on est coincé, tu deviens un problème, tu es dur à gérer, la France, nos interlocuteurs ne veulent pas payer. Du coup, on fait cette vidéo, on l'envoie à qui de droit, et si on n'a pas de réponse d'ici quelques jours, on va te tuer, quoi. Et donc là, ça devient un calcul qui est tous les jours, c'est est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont venir ? Est-ce que les services secrets, n'importe qui, a eu le temps de considérer l'offre, de prendre une décision ? Est-ce que cette décision a été transmise ? Est-ce qu'elle arrive ou pas ? Et donc je suis resté dans cette angoisse pendant une semaine à peu près. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, il faut que je prenne les devants. La grande évasion, quoi. J'avais des idées sur la date. J'avais entendu des enfants jouer des bruits de moto, donc je me disais c'est le printemps, quoi. L'hiver est fini. Et donc je savais qu'a priori, il ferait moins froid, quoi. Il n'y aurait pas 4 mètres de neige, je pourrais avancer. Parce qu'il y a eu des moments où même tout habillé, même sous mes couvertures, j'avais froid, quoi. Donc là, je savais que ça allait mieux de ce côté-là. Mais à part ça, j'avais très peu d'éléments. Ni de où j'étais, ni de est-ce que c'était un tout petit village, est-ce que c'était une ville, est-ce que c'était juste une maison isolée, est-ce que c'était à flanc de coteau, est-ce que c'était dans une plaine, j'en savais rien du tout. J'ai travaillé quand même depuis tout l'hiver à cette idée d'évasion. Donc il m'a fallu un peu de temps, et finalement j'ai réussi à trouver la faille dans mon dispositif de garde. J'avais réussi depuis quelques temps à me libérer de mes chaînes et après moult contorsions, à faire passer mes affaires, ma veste, quelques bouts de galettes de riz que j'avais gardées de mes repas précédents, une gourde de thé. Donc je suis passé par cette lucarne. Après moult contorsions, j'y serais pas passé si j'avais pas perdu 15 kilos, je pense. Et je me suis retrouvé donc dehors. J'ai commencé à marcher. C'était une nuit, c'était couvert de temps en temps, des étoiles, de temps en temps une petite bruine qui passait. Donc c'était dans la campagne. Et j'avais repéré au loin qui scintillait là sur un coteau, une distance indéterminée. Une lumière. Donc l'Afghanistan, c'est noir. Il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Il y a juste quelques petites choses qui peuvent être éclairées. C'est les grands chantiers. C'est les bâtiments officiels et puis c'est les infrastructures militaires. Donc je me suis dit, il y a un lampadaire. C'est pas le pays des lampadaires, c'est forcément une base militaire ou un endroit où il y aura du monde, quoi. Et du coup, j'ai marché vers la lumière. Pas forcément très facile ou très accueillant l'Afghanistan, en particulier la nuit. C'est la montagne, il peut y avoir des éboulis, j'étais en sandales, quoi, donc je savais pas sur quoi j'allais tomber. Et en fait, j'ai des problèmes quand après ces petits chemins de campagne, il a fallu que je passe un col avec une route assez récente, et là effectivement, je suis tombé sur un checkpoint. Deux mecs au bord d'une route, avec une barrière et une lampe de poche. Et là, en fait, pas moyen de savoir qui ils sont. Est-ce que c'est des forces régulières ? Est-ce que c'est une milice ? Est-ce que c'est des rebelles ? Est-ce que c'est complètement autre chose ? Et donc, ils m'ont pas vu, moi je les ai vus, et il a fallu que je contourne. Et après, je suis tombé sur un autre obstacle, c'est qu'il est là pour le coup des chiens de garde. Quand je me suis retrouvé face aux chiens de garde qui étaient sur moi, quoi, finalement, là, j'ai pas fait le fier. Et puis tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de m'asseoir, finalement. Et puis, ils ont fini par se lasser. Ils ont aboyé 5 minutes, le garde les a rappelés à l'ordre, et puis voilà, c'était fini. J'ai pu faire demi-tour, repasser le checkpoint à moitié en rampant et contourner par une autre route. Et puis j'ai continué à marcher jusqu'aux aurores, jusqu'à ce que j'arrive aux abords d'une agglomération. Le ciel vient plus se violacer. Les premières prières commencent à résonner. Là, je commençais à me sentir mal parce que j'étais arrivé donc dans la banlieue, et c'était le moment où les gens vont se lever, vont commencer à avoir des activités, à sortir. Et moi, il fallait absolument que je me planque. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai pas trouvé de cachette. Mais j'ai pas eu besoin, parce que finalement, je suis tombé sur une construction entourée d'un mur avec des barbelés et un mirador. À côté, il y avait le portail gardé par deux bidas. Et il y en a un qui me voit un peu hagard en train de regarder le portail et ce qui s'est avéré être une base militaire. Et le mec qui me braque. Et Kujamari, il me demande en afghan où je vais. Moi, je sors mon poignet avec mes chaînes. J'avais les marques d'oxyde de fer sur les poignets qui étaient noires. Et en Dari, chaîne, c'est Djendjel. Ame, Fransawe, Bakabur, Merib, Dataleb, Mushkil. Enfin voilà, j'ai eu des problèmes avec les talibans, je suis français. Vous voyez, j'ai des chaînes et j'ai à Kaboul, mais j'aimerais aller à Kaboul, Inch'Allah. Et du coup, il a cru que j'étais un taleb ou un insurgé, quoi. Donc il m'a braqué, il m'a fouillé, il m'a posé tout un tas de questions auxquelles j'ai rien compris. Et puis finalement, une fois qu'il a vu que pour tout bagage, j'avais du riz un peu passé, quelques bouts de galette et une gourde de thé... Il en a quand même référé à sa hiérarchie. Donc ouais, j'étais toujours au portail. Hein. J'étais arrivé, il commençait à y avoir des gens qui passaient et qui me regardaient, un attroupement, 5, 6, 7 personnes. Donc tout ce que j'ai fait finalement, c'est essayer de taper des clopes à ceux qui passaient par là. Arrivent des interprètes, arrive un commandant, puis un général. Le général lui dit « Oh là, on va quand même vérifier. » Je suis passé en interrogatoire, donc c'était pas gagné. Mais ça a pris quelques heures avant que le général revienne et me dise « J'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas un taliban. » Ah bah, très bien. Et donc, au bout d'un moment, j'ai été confirmé donc, comme otage. Et puis, le mec était un peu confus. Il dit « Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ?» Je fais « J'ai marché, ça fait 4 mois et demi que j'ai les mêmes chaussettes. J'ai marché toute la nuit dans la boue en sandales avec. Si je pouvais avoir des chaussettes propres, ce serait génial. » Et il m'a donné des chaussettes propres. Et ça, c'était vraiment bien, les chaussettes propres. Bien repassées et toutes neuves. Puis j'ai pu me laver quand même, me débarbouiller le visage, chose que je n'avais pas faite depuis plus de 4 mois. Un robinet, un miroir et un bout de savon, ça c'était génial. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu organiser un convoi pour retourner à Kaboul dans la voiture. Et c'est là qu'effectivement je me suis dit c'est bon, a priori tout ira bien quoi. Et ça a été la dernière nuit de cette longue nuit quoi.
C'était le jour le plus long, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Zoé Marie-Roulier, à Jeanne Delecroix et à Sandrine Chaperon. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er octobre 2015.